On reste dans la musique et dans la chanson française avec l'invité culture de ces matins du samedi, mais on change radicalement de tonalité avec Alex Baupin. Tiens, souvenez-vous de cette chanson d'Alex Baupin interprétée par la grande Sophie et la petite Caroline sur la BO du film Les Malheurs de Sophie.
Quand le tonnerre tonne, je crie plus fort que lui.
J'emmène ma bonne pour danser sous la pluie.
Et quand le vent souffle, pas de moufle à mes doigts.
Sophie, Sophie, il fait trop froid. Quand malheur, les malheurs tombent vers la bombe, la bombe, la bombe. Quand malheur, les malheurs tombent vers la bombe, la bombe, la bombe.
Bonjour Alex Baupin.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans les matins du samedi. Vous disiez, au moment de lancer votre sixième album, pas plus le jour que la nuit, à quel point le monde vous inquiétait. Depuis, vous avez lancé une grande tournée à travers la France et elle vous a permis de reprendre un peu espoir, cette tournée qui va vous permettre de voyager comme ça jusqu'en 2021. Dans l'intranquillité, c'est vrai, peut-être qu'il faut faire, il faut bouger pour pas rester sur le simple constat.
Oui, en tout cas, moi j'avais l'impression en écrivant cet album dans lequel je parle un peu plus de l'état du monde que finalement ce qui me réconforte le plus c'est que de situations atroces les gens soient encore capables de faire des choses jolies. C'est le cas des chansons, c'est le cas des films, c'est le cas des tableaux des fois, enfin voilà. Et puis alors reprendre la tournée c'est quelque chose d'assez réconfortant aussi parce que c'est la récompense la tournée quand on a beaucoup travaillé sur un album. C'est vraiment le moment où on arrête de travailler parce qu'une fois qu'on a répété le concert, qu'il est fait. Il y a des artistes qui disent souvent non, je suis en tournée, il faut pas me déranger, on travaille beaucoup. C'est pas vrai. En tournée, on voyage, on est nourri, on est logé et puis on est applaudi. Donc pour moi, c'est le moment de colonie de vacances, quoi. C'est
on
le moment
peut aussi
de...
écrire entre deux concerts.
Oui, ça peut m'arriver, mais je suis assez paresseux. C'est le seul moment où je m'autorise à être paresseux en tournée. Parce que c'est des moments où je regarde des films, où je lis des livres, où on fait des bêtises avec mes camarades, enfin avec mes acolytes, mes musiciens. Et non, c'est un vrai moment de colonie de vacances pour moi, la tournée.
Partir à la rencontre du public, quoi qu'il en soit, Alex Baupin, si on vous entend bien, c'est quelque chose qui peut être réparateur.
Réparateur, je sais pas, je dirais confortant et même narcissisant, si je peux être un peu... Enfin, on a une rémunération symbolique quand même quand on est artiste et qu'on va sur scène et qu'on est applaudi. Et puis après, en province à Paris, c'est plus compliqué parce qu'il y a du monde, mais en province, souvent, on rencontre les gens après qui viennent vous dire des gentillesses, qui viennent vous expliquer des fois vos chansons comme vous les aviez pas comprises, qui vous disent à quel point vous êtes quelqu'un d'important. Et c'est réconfortant, c'est le mot que je trouve.
Il y a cette question sur la chanson Orlando qui figure sur ce sixième album. Ne peut-on vivre côte à côte ?
En tout cas, il semble que ça devienne difficile pour beaucoup de personnes de vivre côte à côte. Et puis, peut-être que le problème aussi, mais là je vais passer pour un vieux, le problème aussi c'est que on se rend compte qu'on ne peut pas vivre de côte à côte de plus en plus parce que, évidemment, il y a une hystérisation des débats avec l'apparition des réseaux sociaux, etc., qui fait que tout d'un coup prend n'importe quelle chose, prend des importances. Et tout d'un coup, les gens s'énervent beaucoup plus vite qu'avant et on a ce retour-là beaucoup plus vite qu'avant.
Il manque peut-être alors du coup une certaine poésie ?
Alors je vais peut-être passer pour quelqu'un qui est un peu antidémocratique alors que je le suis pas, mais le fait que... Non mais avant les gens étaient bourrés, ils disaient des bêtises au café du coin, c'était pas grave, je veux dire ça restait dans le cadre d'un bistrot, etc. Aujourd'hui on est dans un bistrot mondial où les gens sous qui disaient des bêtises au comptoir, aujourd'hui ils le disent sur internet et on le voit et c'est diffusé mondialement, donc peut-être que c'est ça qui s'est passé aussi. Moi il y a plein de sujets sur lesquels je préfère me taire, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui ont des opinions sur plein de choses qu'ils connaissent pas et c'est ça qui m'inquiète moi.
Quoi qu'il en soit, vous bougez Alex Baupin, avec cette tournée notamment, vous prenez un malin plaisir à réarranger vos titres, votre répertoire, on l'entend pas de la même façon en concert que sur vos différents albums, vous voulez le bousculer, c'est aussi une façon comme ça de vous bousculer vous.
Ah ben je trouvais ça rigolo, moi ça fait 3 tournées où je suis sur des tournées un peu similaires, très chansons françaises, je trouvais ça amusant cette fois-ci effectivement, le répertoire, c'est-à-dire les anciens titres, de les réarranger aux couleurs du nouvel album qui est un peu plus... électro, on emploie tout le temps ce terme, mais qui est un peu plus synthétique, en tout cas, on va dire. Je trouvais ça amusant aussi d'être devant cette fois-ci. Je joue pas de piano du tout. Il y a même pas de piano. D'ailleurs, il y a des claviers et pas de piano. Je voulais prendre la place du chanteur, voir ce que ça faisait, comme dans les années 70, vous savez. Et puis, je pensais que ça allait me permettre de chanter mieux. Bon, bah, ça, c'est un espoir un peu déçu, j'avoue. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir un contact différent au public.
Être devant, ça a quand même toujours été un peu le cas sur les albums. En studio, les arrangements ont toujours été un peu pour vous mettre en avant. Vous étiez pas trop en
retrait. Ah, bah oui, quand on est chanteur sur son projet, on essaie quand même de se mettre un petit peu en valeur. C'est l'intérêt. Non, mais effectivement, moi, je fais de la chanson et je suis encore très chanson dans le sens où, par exemple, vous en parlez pour les albums studio, la voix est mixée très devant, ce qui donne peut-être une importance au texte, une petite prééminence au texte par rapport à la musique. C'est très français, ce truc-là.
Vous êtes définitivement un chanteur français. Vous relevez définitivement de la chanson française.
Oui, je crois.
Comment on reconnaît la chanson française en dehors de ce qu'on vient de dire?
Ah, je crois qu'il y a une tradition littéraire qui vient d'une chanson rive gauche qui fait que, quoi qu'il arrive, et quelquefois ça me désespère un peu, on accorde au texte une importance, et je crois même qu'en France on respecte et on se souvient beaucoup plus des auteurs que des compositeurs, par exemple. C'est quelque chose de très français, ça. Alors moi, je fais encore attention à la façon dont j'écris mes textes. J'essaye quand même de faire en sorte, quand je compose des musiques, de faire en sorte que harmoniquement, il y ait quand même quelques petites inventions, que les arrangeurs que choisissent, là en l'occurrence, deux garçons qui s'appellent Sage et Superpose, aient des idées et qu'on laisse de la place à la musique. Mais en France, c'est peut-être un peu désespérant. Le texte reste une valeur très importante dans la chanson.
Ouais. Mais c'est important pour vous aussi. Et d'ailleurs, vous le disiez au début de cet entretien, Alex Baupin, vous êtes un peu décentré sur cet album « Pas plus le jour que la nuit ». Vous parlez un peu moins de vous. Vous parlez de sujets de société, de sujets environnementaux, de sujets politiques aussi, ce qui était peut-être un peu moins le cas avant. Ça veut bien dire qu'il y a une importance aussi au texte.
Oui, oui, avant c'était des épiphénomènes, le fait que je parle de l'état du monde ou de politique, etc. Là, ça devient la moitié des chansons de l'album sont sur... Alors, je me vis plus comme un chroniqueur, presque comme un chanteur engagé, parce que pour moi, la chanson engagée...
Ouais.
Un chroniqueur, un journaliste, il faut être très très doué pour être journaliste, vous le savez. Donc voilà, et ça, effectivement, c'était une des pistes que j'essayais d'explorer pour éviter de faire tout le temps la même chose. Moi, j'avais un petit sentiment de piétinement. Peut-être que j'étais arrivé à 40 ans et que je me reposais un peu sur mes lauriers. J'en ai pas beaucoup, mais sur mon oreiller, en tout cas. Et du coup, j'avais le sentiment de piétiner un peu. Et une des façons d'éviter ce piétinement, c'était de se dire, tiens, les textes, on va, thématiquement, en tout cas, on va essayer de s'ouvrir un peu vers l'extérieur.
C'est aussi parce qu'à 45, maintenant,
ouais,
on peut s'autoriser aussi à donner son avis, à donner au moins un point de vue ou
un point de vue,
à
un avis,
prendre
je
un
sais
angle
pas.
Sur l'état du monde et sur l'état de la société.
En fait, je voulais peut-être me frotter à des gens que j'admire beaucoup et qui ont réussi à le faire en chanson, sans être sentencieux, ni sans se mettre en scène. Bah, évidemment, on pense à un type comme Souchon, qui le fait encore dans son dernier album et qui a cette espèce de capacité à écrire des chroniques assez justes sur choper un peu l'air du temps, comme ça, ce qui se passe. Alors moi, je suis peut-être un peu plus sombre que Souchon dans la façon dont je raconte les choses, mais ça, c'est mon petit penchant naturel à moi.
Ça pourrait évoluer, ça, d'ailleurs. Le côté sombre d'Alex Baupin pourrait peut-être parfois...
Je crois que je suis vraiment profondément désespéré, mais totalement joyeux comme garçon. Alors, le problème, c'est que dans les chansons, on entend peut-être que le côté profondément désespéré, mais en concert où je parle beaucoup et où je fais des blagues, pas toujours drôles, mais j'en fais, on sent que, en fait, ça me rend très heureux d'écrire des chansons tristes. Voilà ce que je peux vous dire.
Mais ça rend aussi heureux de les écouter, souvent, les
chansons
tristes.
Je crois que ça réconforte ou que ça rend heureux. Je crois qu'il y a dans la mélancolie, parce qu'elles sont tristes et désespérées, mais moi, je parlerais plutôt de mélancolie que de désespoir. Quand on écoute les chansons, c'est souvent ce sentiment-là qui prévaut. Et moi, je crois qu'il y a dans la mélancolie quelque chose de profondément réconfortant. Ouais, bien sûr, c'est un dimanche où il pleut et où vous jouez au Scrabble, alors c'est un peu triste. Puis en même temps, est-ce que c'est pas un peu réconfortant?
C'est super pop, ça, de parler de choses graves ou sombres ou désespérantes, mais en y mettant la manière, en y mettant un peu le style, et peut-être en ayant cette touche électro dont vous parliez il y a quelques instants.
Oui, je crois que l'idée de la pop, c'est de faire semblant d'être léger et de raconter des choses très très tristes. Je crois que ça, c'est la vraie idée de la pop, effectivement. Alors, souvent, ça passe par la musique. En l'occurrence, moi, je réussis de temps en temps à faire ce truc d'avoir une musique qui semble comme ça, un peu rythmée, un peu légère, et puis quand on écoute les paroles, on se dit c'est très triste que ça raconte. En tout cas, de faire en sorte d'essayer de pas s'apesantir dans la gravité, quoi. Et en même temps, de faire en sorte que ce qu'on raconte soit grave, sans qu'on s'en rende compte. Voilà. C'est un petit pas de côté, la pop, par rapport au rock, qui est peut-être plus direct et plus primaire, ou la chanson, pure chanson, qui est peut-être aussi plus dans un rapport un peu premier degré à ces choses-là.
Leur cri affole nos antennes de façon quasi quotidienne. Les sirènes, elles annoncent la venue soudaine de bien vilains croque-mitaines. Les sirènes, ce sont d'étranges musiciennes, hypnotiques hallucinogènes, boitant sur de notes incertaines. Voici qu'elles deviennent phénomènes. Et par à-coups, par acouphènes, donne l'universelle migraine. d'abord diffuse et aérienne, elle se précise chaque semaine. Les sirènes, elles ne sont plus à Andersen, elles ne côtoient plus les baleines. Les sirènes, et dans ma nuit européenne, je pense à des nuits plus lointaines, à des nuits nord-américaines, des nuits africaines ou syriennes. Car le monde entier a fait sienne leurs chansons sourdes et inhumaines.
Les sirènes, extrait du sixième album d'Alex Baupin. Là, ça illustre parfaitement ce qu'on disait il y a quelques instants. Alex Baupin, une mélodie peut-être qui n'est pas si compliqué.
Tout ça semble doux en tout cas.
Voilà.
Ça semble doux et ça raconte effectivement.
Et pourtant,
ça parle de sirènes et pourtant ça parle. Enfin, après, on l'interprète comme on veut, mais moi, dans mon idée, ça parlait des attentats effectivement, cette chanson-là.
Avec une une façon de le faire, une façon d'en parler, un point de vue qui n'est pas un point de vue immédiat.
J'ai tenté quelque chose d'un peu métaphorique là-dessus, effectivement. En fait, en écrivant ces chansons sur l'état du monde, je me disais comment est-ce qu'on peut écrire dignement sur ces sujets-là. Alors, la première façon d'être digne, je me disais que c'était pas de se mettre trop en scène soi-même, de pas jouer dans les textes une fausse colère ou une fausse indignation qui peut être un peu ridicule. Et puis j'ai beaucoup pensé, alors sans jamais atteindre ce truc-là, mais moi j'ai beaucoup pensé à Barbara, la façon dont elle pouvait écrire. Les sirènes, là c'est une chanson, il y a beaucoup
Göttingen.
De rimes en N par exemple, et ça fait penser à Göttingen. Enfin en tout cas, moi dans mon esprit, il y avait quelque chose de cet ordre-là.
Ça vient comment ce genre de texte? Il faut donc du temps, si on vous entend bien, laisser passer peut-être le temps du choc, le temps de
l'émotion. Je crois qu'après l'événement, oui, l'état de sidération est trop immédiat pour qu'on écrive un texte digne. Moi j'ai mis du temps et puis à un moment donné c'est une idée qui surgit, moi c'est souvent la musique qui vient avant et c'est sans doute sur cette musique que cette idée des sirènes a surgi. Je me suis dit tiens, vous savez c'est assez bête les chanteurs, hein. À partir du moment où on a une idée pour une chanson qui dure 3 minutes, si l'idée tient un peu la route, une métaphore par exemple, en l'occurrence on parle des sirènes mais ce ne sont pas les sirènes de la mer mais les sirènes de ces voitures de police et de pompiers qui sillonnent les villes pendant les attentats, à partir du moment où on a cette idée et qu'on réussit à tirer un peu le fil, on finit par y arriver assez vite.
J'ai cru entendre tout à l'heure, au détour d'une réponse, Alex Baupin, le terme « engagé ». Vous voudriez être un chanteur engagé? C'est très difficile à manier cette notion-là.
Oui, c'est compliqué.
Ce titre-là de chanteur engagé, ça veut dire quoi, chanteur
engagé?
Oui,
c'est compliqué parce que dans « engagé », on entend souvent « encarté », par exemple, et on se retrouve assimilé à un parti politique parce qu'on a dit « moi, je le dis sans problème, je suis un électeur de gauche, j'ai beaucoup voté, j'ai voté PS comme un âne pendant des années. » Bon. Maintenant, ils sont en Ligue 2, donc c'est compliqué de voter pour eux. Mais voilà, moi, ça me dérange pas d'exprimer mes opinions. Dans les chansons, c'est plus compliqué parce que, voilà, il y a toujours un endroit où, alors, soit on est donneur de leçons, soit on fait du prosélytisme. Je crois que la meilleure position du chanteur, c'est quand même celle de la chronique plutôt que celle de l'engagement.
Après, sur un plan strictement politique, il y en a quand même beaucoup moins de chanteurs engagés. On peine à les trouver. On pense à Benjamin Biolay,
bien
de
sûr,
temps en temps.
Benjamin qui, lui, parle encore des gens pour qui il vote et de ses goûts, de ses dégoûts. Moi, je trouve ça assez regrettable, mais il se trouve qu'effectivement, et c'est une raison bassement commerciale, hein, c'est qu'on prend le risque quand même, quand on déclare qu'on est de gauche ou de droite, de se couper de 50% de son public, puisqu'après, bon, je crois que la France est un peu plus de droite quand même. Mais on a 55-45, on va dire. Mais en tout cas, on risque d'en perdre une partie. Moi, je trouve ça déplorable parce que moi, en tout cas, comme auditeur, je peux aimer des artistes de gauche comme de droite. C'est pas tellement un problème, je trouve.
L'année politique qu'on vient de vivre, 2019, là, et qui s'achève, hein, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez traversé, vous?
Alors, j'ai trouvé ça un peu désespérant. Alors, moi, j'étais dans la sortie de mon album, ce qui me permettait de... Mais quand même, j'écoute le bruit des choses me parviennent. Le dernier truc, là, en France, en tout cas, c'était l'histoire de réforme des retraites, donc j'ai cru comprendre que c'était un immense gâchis. C'est-à-dire qu'on était dans une situation pas si désespérée, que pour faire des économies dont on n'a pas forcément besoin, on est en train de faire n'importe quoi. J'ai entendu ça sur votre antenne, hein, c'est pour ça que je répète ça bêtement, parce que j'y comprenais rien. Mais tout ça me fait beaucoup de peine, en fait. Je crois que le terme le plus... Voilà, c'est ça, c'est de la peine que ça provoque chez moi. De la peine et puis une espèce de petit désespoir, parce qu'arrivé à 45 ans, on se rend compte que vraiment, les choses vont pas vers le beau.
Mais c'est pas vraiment un détail. J'ai l'impression que vous jouez un peu le détachement en disant j'ai entendu ça.
Non, je m'intéresse réellement aux choses. Je travaille. Enfin, voilà. C'est un vrai travail pour moi. La réforme des retraites, j'y comprenais rien. J'ai vraiment travaillé et j'en comprends encore que la moitié parce que tout ça est, ce sont des sujets assez techniques quand même et très compliqués. Je comprends à peu près ce que ça implique, les choix de société, en tout cas que ça implique. Après, je me pose toujours la question de me dire, est-ce que c'est parce que je vieillis que j'ai l'impression que le monde est moins beau? Est-ce que c'est pas moi qui suis moins beau finalement? Est-ce qu'avant, avec la jeunesse, je n'avais pas? Ou est-ce que c'est vraiment que on va pas vers le beau, quoi?
On parlera d'environnement dans une deuxième partie de cet entretien, Alex Baupin. Vous y faites souvent allusion aux problèmes environnementaux dans ce sixième album, Pas plus le jour que la nuit. Avant ça, on vous a demandé un choix musical avant d'arriver dans ce studio. Vous avez choisi Joyeux Noël par Les Innocents avec JP Nataf, qu'on va écouter dans un instant. Dites-nous pourquoi.
Bon, c'est une chanson de Barbara à la base. La version de Barbara est très belle, mais il se trouve que c'était dans un album qu'avait fait Les Innocents qui s'appelait Les Innocents chantent Noël. L'album de Noël qui est un truc très anglo-saxon. Auquel peu de Français se sont frottés à part eux, puis Florent Marchais dernièrement. Et il se trouve que la voix de JP Nataf, qui est le leader des Innocents, est assez étonnante pour une voix française parce que vous allez voir, c'est presque Bruce Springsteen et c'est très très rare ça en France de savoir chanter comme ça.
C'était 22h à peine, c'est vendredi là, cette veille de Noël, et pour fêter ça, et s'en aller chez Madeleine. Près du pont de l'Alma, elle aurait eu tant de peine qu'ils ne viennent pas fêter Noël. En smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à ballon, à pied ils longeaient la Seine tout en sifflotant. Il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant Noël, charmant, c'était 22h à peine, ce vendredi là, c'était veille de Noël, et pour fêter ça, elles sont allées chez Jean-Pierre, près du pont de l'Allemagne. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter Noël. Beauté noire, souveraine, gantée de blanc, elle allait pour dire je t'aime tout en chantonnant. À pied, elle longeait la Seine, marchant d'un pas long, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien. Charmant Noël, charmant. En voilà sur le pont, ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient, un chemin contraire. Lorsqu'il a mis si belle, bottes aux gants, il se sentit infidèle. Jusqu'au bout des dents, elle est mince en smoking vert, son col roulé blanc, frissonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, à des ponts de l'Allemagne. Bonsoir, j'allais chez Madeleine, juste à deux pas. Ils allaient chez Eugène pour y fêter ça, sous le sapin de lumière, lorsqu'il l'embrassa, heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Petit jour, il se met près d'un feu de bois. Joyeux Noël, joyeux Noël. Mais après une semaine, vendredi là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Et se rendit chez Madeleine, je l'air un peu sournois. Se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près des ponts de l'Allemagne. Et qu'est-ce que ça pouvait leur faire à ces amants-là qu'avait eu dis-le bientôt quand même de rentrer chez soi. Après Noël.
Les Innocents avec la voix, c'est vrai, très belle de J.P. Nataf sur ce titre Joyeux Noël. Le choix musical de notre invité ce matin, Alex Baupin. Alex Baupin qu'on retrouve dans quelques minutes juste après l'info, il est 7h30. Alex Baupin, invité de la partie culture de ces matins du samedi. On a parlé un peu engagement avant le journal tout à l'heure, Alex Baupin. Parlons environnement. Notre forme d'engagement, c'est aussi de la politique. Vous êtes personnellement engagé. J'ai cru dire que vous fabriquiez vous-même votre lessive.
Non, ils ont un peu exagéré. J'ai des amis qui le font et qui commencent à m'apprendre à le faire.
Voilà, très intéressé par tout un tas de techniques qui permettent peut-être de faire changer la vie ou en tout cas de faire changer les choses à l'échelle individuelle.
Oui, alors après, je vais vous paraître peut-être encore un peu désespéré, désespérant, mais je pense pas que ça change grand-chose en réalité. Hélas, je pense que les actions individuelles sont à nouveau une forme de réconfort, peut-être, pour se dire qu'on agit sur les choses. Toujours cette histoire du colibri, vous savez, alors moi, ça me fait toujours un peu... Et là, je suis peut-être un peu cynique, hein, mais un peu doucement rigolé, parce que je me dis que c'est à plus grande ampleur que les choses doivent changer, que c'est pas nous qu'allons en décider. Hélas. Après, il est vrai que sur cet album, voilà, ça clôt, l'album se clôt sur une chanson qui s'appelle Poussière lente, qui est une espèce de longue chanson, comme ça, de cinq grands couplets, sur la fin du monde, tout simplement.
Ouais, c'est désespérant.
Le désastre, voilà, le désastre qui s'annonce et qu'on nous annonce depuis longtemps, qu'on entend depuis pas si longtemps, mais qu'on nous annonce depuis les années 70, quand même, hein, quand on remonte le temps. Moi, je me rappelle déjà dans les années 80, alors c'est vous dire à quel point j'ai vraiment pas de vista. Moi, je me rappelle que dans les années 80, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'était le trou dans la couche d'ozone. Mais c'est peut-être une des premières fois où on a réalisé que de façon très concrète, par nos actions, on avait réussi à détruire un équilibre environnemental. Voilà. Il paraît qu'il se rebouche, le trou dans la couche d'ozone.
Donc, le problème est ailleurs maintenant.
Voilà, ouais. Que le problème s'est déplacé ailleurs. Moi, j'avais très peur de ça quand j'étais petit. Apparemment, il paraît que ça va mieux. Pour le reste, oui, je crois que c'est la fin du monde ou la fin d'un monde. Enfin, ce serait se voiler la face de pas s'en rendre compte. À part quelques imbéciles, je vois pas qui peut nier ce truc-là. Donc,
évidemment... Ils sont assez nombreux, hein, les imbéciles dont vous parlez, Alex Baupin. C'est une façon de leur répondre cette chanson et cet engagement-là.
Non, il y a pas cet esprit de vindicte en quelque sorte chez moi. Non, c'est qu'à partir du moment où je me suis posé comme principe dans cet album de parler de l'état du monde, c'est un sujet à côté duquel on ne peut pas passer, je crois, parce que. On parle vraiment, en l'occurrence, de l'état du monde, enfin l'état physique du monde. Et puis moi, en plus, j'en parle, ça m'inquiète, mais moi, j'ai 45 ans, donc a priori, c'est pas pour moi que ça va être le plus grave. J'ai cette impression aussi de constater que de génération en génération, les choses sont de plus en plus graves. Nous, je me rappelle qu'on reprochait, En tout cas, nos aînés nous reprochaient de n'avoir plus d'engagement, d'être dans la désillusion, alors que FME 68, etc. Nous, on leur disait, vous êtes bien gentils, mais nous, on est en pleine crise économique et on a le sida, en gros, hein, si je schématise un peu ce qu'était notre génération. Eh ben, aujourd'hui, on se retrouve face à des gamins qui nous disent, vous êtes bien gentils, mais nous, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Rien, donc.
Donc, on fait de la poésie?
Oui, cette idée vraiment dérisoire et vraiment, mais pas inutile quand même, au bout du compte, que le geste d'essayer, partant de ces sujets, d'écrire une chanson un peu ample, un peu lyrique, qui ne console pas, mais la consolation, elle se trouve dans le fait de se dire « Ah, quand même, regardez, on n'est peut-être pas complètement foutu comme espèce si de ces choses-là, on aurait encore à faire des belles choses, quoi. »
Vous parliez tout à l'heure, Alex Baupin, de l'importance de la composition et de l'importance des compositeurs. On va en écouter un et puis on en parle juste après.
c'est incroyable, c'est les moulins de mon cœur, c'est oui. Michel Legrand. Merci, oui. Ça me fait plaisir d'entendre Michel Legrand. C'est incroyable parce que je connaissais pas cette version-là, qui est très démonstrative quand même, hein, dans la virtuosité pianistique en tout cas. Ça envoie presque un peu. Mais alors moi, c'est ce que j'aimais beaucoup chez Michel Legrand, c'était le côté trop. Il y en a toujours trop, quoi. Enfin, il y en a trop. Il y en a pas trop à mon sens, mais moi, quand j'entends de la musique de Michel Legrand pour les films de Jacques Demy ou celle qu'il faisait lui, j'ai l'impression que vous voyez, il a pris une glace, il a mis de la chantilly, puis il s'est dit, on va rajouter de la crème par-dessus quand même parce que ça va manquer. Il y en a partout.
Oui, ça explose. Digeste. Complètement, Alex Baupin.
Pour certaines personnes, non, mais moi, j'adore ça. Il y a une espèce de jaillissement, en fait. Voilà, moi, j'ai l'impression que toujours une impression que Legrand, ce que moi, je suis pas, moi, qui suis très laborieux quand je me mets au piano pour faire des compositions, ce que j'admire chez lui. Qui a aussi une science aussi, qui est aussi un vrai savant de la musique, qui a fait des études que moi j'ai pas faites, hein, attention. C'est une espèce de fontaine à musique, Michel Legrand, et on l'entend dans ces trucs-là, moi ce jaillissement, ça me réjouit profondément.
Je vous invite en sortant de ce studio, Alex Baupin, à visiter une exposition en ce moment à la Maison de la Radio, ici même,
oui.
Sur Michel Legrand et sa musique, beaucoup de pochettes d'albums et d'affiches de films à voir, rien de grave dans les aigus, c'est en accès libre à la Maison de la Radio. Vous irez, hein ?
Ah, mais promis, j'irai, mais moi je suis un des premiers fans de Michel Legrand, donc bien sûr que j'irai.
Vos projets autour du cinéma, Alex Baupin, on...
Il y a quelques musiques de films qui se préparent, c'est compliqué d'en parler, parce que quand les projets sont pas faits, on a toujours peur de porter la chkoumoun, donc... Mais en tout cas, je vais refaire de la musique de film parce que ça fait un petit moment que je m'y suis pas, que je me suis pas penché là-dessus et c'est un exercice qui me plaît, qui me détend, qui me permet de pas être le chef. Et moi, j'aime bien pas être tout le temps le chef. J'aime bien aussi qu'on me, je suis sadomaso, donc j'aime bien de temps en temps porter le projet. Puis de temps en temps, j'aime bien qu'on me dirige. Voilà. Donc il y a ça. Je tourne autour depuis un peu longtemps de l'idée de, parce que moi j'ai mis des chansons partout, j'en ai mis dans des livres, au théâtre, j'en ai mis au cinéma. Je me dis qu'à un moment donné, il faudra quand même que je fasse ce spectacle musical sur scène. Donc là, je suis en train de rencontrer des gens et de réfléchir à comment je pourrais monter quelque chose dans lequel moi je jouerais pas, mais écrire quelque chose, voilà. Peut-être une adaptation, peut-être, voilà, j'ai plusieurs pistes lancées.
Un musical
Moi, je sais pas, on a des théâtres à Paris, comme je suis allé voir un Américain à Paris, au Châtelet, il y a pas longtemps, à Châtelet, à Marigny, il y a encore des endroits où on peut monter ça, et on est en train de monter les Américains, parce que c'est formidable, le musical, mais pourquoi, et où de remonter des succès, justement, de Legrand et Demy. Je me dis que ce serait intéressant de proposer quelque chose dans ces endroits, voilà.
C'est encore une façon de bouger. Vous êtes toujours en mouvement, finalement, Alex Baupin.
Mais moi, je fais le métier que je voulais faire quand j'avais 8 ans, et quand j'avais 8 ans, je pensais que j'y arriverais jamais. J'ai réussi ma vie très tard. Donc maintenant que je réussis à le faire et que j'ai la possibilité, peut-être parce que je suis arrivé à un âge où voilà, où je suis un tout petit peu installé, même si on ne l'est jamais, ouais, moi j'ai envie de travailler, moi je déteste partir en vacances parce que je m'amuse tout le temps.
Et d'ailleurs, vous partez pas en vacances.
Et d'ailleurs, je suis là.
Vous êtes là et vous travaillez.
Ouais, effectivement, mais parce que mon travail est c'est une vocation, c'est même pas un travail ni une carrière, c'est une vraie passion. Puis j'ai cette boulimie parce que j'ai peur que ça s'arrête, en fait, je crois. Donc oui, j'en profite beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Grand merci Alex Baupin, en tournée jusqu'en 2021 donc. Hein. Prochaine date, 17 janvier à Sotteville-lès-Rouen, 18 à Meaux, 23 à Nantes. Votre album, le 6e, Pas plus le jour que la nuit, c'est son titre. Les matins du samedi continuent, 7h42, voici La Fabrique médiatique.